Voix Nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Evelyne Ayer, professeure en anthropologie génétique.
Bonsoir Evelyne Ayer.
Bonsoir.
Premier épisode, dans mon ADN, je mets. Point de suspension. Il y a des métiers comme ça qui éveillent notre curiosité, tant par leur dénomination que par leurs objets de recherche. Je pense à astrobiologiste ou le vôtre, anthropogénéticienne. C'est la richesse de l'approche, c'est la variété des domaines de cette discipline, les questions qu'elle aborde et peut-être votre grande capacité de conteuse à vous qui ont suffi à nous convaincre de faire une série de 5 entretiens avec vous. Vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle, au Muséum National même d'Histoire Naturelle. Vous y menez des recherches sur l'évolution génétique et sur la diversité de notre espèce. Et au fil de vos recherches, vous avez démontré le poids de la culture sur la génétique. C'est ce qu'on va voir au cours de ces entretiens. Vous avez écrit plusieurs livres à succès sur le sujet, L'Odyssée des gènes en 2020, triplement primé. On vient vraiment tous d'Afrique, point d'interrogation, en 2019. Je les mets dans le désordre. Hein. La vie secrète des gènes en 2022, qui était tirée de vos chroniques sur France Inter, tous les trois ayant été édités chez Flammarion. Vous avez aussi été, Evelyne Ayer, la commissaire générale scientifique de la rénovation du Musée de l'Homme en 2015 et la conceptrice de la première exposition majeure qui s'est tenue en 2017 et qui s'intitulait « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Le racisme étant l'une des grandes questions que votre discipline tente de comprendre et de déconstruire. On verra ça dans la dernière ou dans l'avant-dernière, peut-être, émission avec vous. Votre truc, donc, c'est l'ADN, vous. Voilà. Il y a des gens qui ont des passions très différentes les unes des autres. Vous, c'est cette machine à remonter le temps. Alors voilà ce que je vous propose pour cette première émission et sur le modèle du jeu je sais pas si vous le connaissez, mais dans ma valise, je mets. Je vous propose de nous dire ce que vous avez mis, enfin, en tous les cas, ce que vous avez constaté qu'il y avait dans votre ADN. De quoi est-il composé, Evelyne Ayer?
Alors moi, dans mon ADN, je pense qu'il y a surtout quelque chose de très humain qui s'appelle la curiosité. Je suis quelqu'un, je suis très curieuse, j'aime bien découvrir, j'aime bien comprendre des nouvelles choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental dans mon ADN, la curiosité, l'émerveillement, aller voir des choses nouvelles, et puis la liberté aussi. J'ai la chance de faire un métier où j'ai beaucoup, beaucoup de liberté, quoi.
Est-ce que vous avez grandi dans un milieu, dans un environnement qui vous a permis de développer ces capacités, ces qualités de liberté et de curiosité?
Ah bah oui, j'ai une super chance, quoi, parce que mes parents étaient tous les deux pharmaciens à une époque où les pharmacies avaient encore des laboratoires d'analyse, et donc je me souviens avec mon père de regarder avec le microscope, de compter des cellules et tout ça. Et l'autre chance que j'avais, comme il travaillait énormément et on habitait à la campagne, donc j'avais une liberté totale, quoi. Je veux dire, j'ai des souvenirs.
Vous couriez dans les champs.
Ah oui, carrément. Non, mais même en plus. C'était dans un endroit où il y avait de la neige l'hiver. Donc
c'était à Lons-le-Saunier. Vous êtes née à Lons-le-Saunier,
oui,
vous avez grandi. Voilà.
C'est ça, et j'habitais au Rousse, à la frontière suisse. Et du coup, je faisais beaucoup de ski et beaucoup de vélo l'été. Et j'ai vraiment des souvenirs d'enfance de très, très, très grande liberté. Vraiment des petits villages avec des histoires de villages, quoi, qui se bagarraient entre villages. Je veux dire, c'est la campagne.
Donc au départ, curiosité, liberté. Un peu plus tard, dans votre ADN, Evelyne Ayer, on pourrait peut-être remettre les mathématiques et la biologie, non?
Ah, j'ai toujours aimé les maths. Alors pour moi, ça a été toujours un jeu et j'ai toujours adoré ça. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais c'est vraiment quelque chose.
Pourtant, il n'y a pas de boss des maths, hein.
Ah, non.
C'est une idée reçue.
Non, j'ai toujours aimé, et ce qui m'a donné finalement des facilités pour les études. Et j'ai toujours aimé la biologie. Enfin, l'idée que je me faisais de la biologie, c'est-à-dire, j'avais envie de biologie dans le sens être dehors, la nature, etc. Donc, oui.
Géomètre experte et monitrice de ski. On retrouve les deux, hein.
Ouais,
être dehors et faire des maths, d'une certaine façon, avec un peu de bio par ailleurs. Bon, vous aviez plus de mal, Evelyne Ayer, avec tout ce qui était, ça va avec, les endroits fermés, et peut-être un peu l'autorité, en particulier quand vous étiez au lycée à Lyon. Vous avez le souvenir de quelques problèmes avec le corps enseignant, de phrases un peu brutales qui vous sont restées très fortes.
Oui. En fin de terminale, alors que je voulais remplir un dossier pour aller en classe préparatoire parce que j'aimais beaucoup les maths, je me souviens de l'appréciation de ma professeure principale en mathématiques, élève totalement insupportable, détruit toute ambiance de travail dans une classe. Très. Alors bien sûr, j'ai pas été prise là où je voulais aller. Bon, heureusement, ma mère, qui a toujours été absolument extraordinaire, m'a trouvé un lycée privé où ils ont quand même bien voulu de moi, etc. Mais après, bon, je suis rentrée dans le moule. Mais c'est vrai que cette liberté m'a quelquefois été un petit peu en but avec des rapports d'autorité comme on pouvait avoir dans l'enseignement à cette époque-là, qu'on a encore, hein, je pense.
Bon, en même temps, c'est pas ce qui vous a empêché de continuer à tracer votre route. Vous vous êtes retrouvé en maths sup bio, puis à l'École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier. Là, vous obtenez un diplôme d'ingénieur agronome, on est en 1987, c'est ça, hein ? Et puis la dernière année, vous êtes parti en stage avec un drôle de sujet d'étude, déjà, j'ai envie de dire, c'était en Martinique. Et vous êtes parti étudier le fruit de la passion. Alors, on découvre tout d'un coup le fruit de la passion qui vous tombe dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous partiez étudier le fruit de la passion?
Eh ben, d'abord, j'avais envie de voyager. Donc, ça, j'ai toujours envie. Donc, j'ai cherché un stage qui me permettait de voyager. D'où l'idée d'aller en Martinique. Et le fruit de la passion, c'était super intéressant. Non, mais je sais
pas. J'en doute pas.
Parce que, en fait, c'est une plante qui soit se met à faire des fleurs, soit se met à pousser. Et donc, ça permettait de valider une théorie de l'évolution qui s'appelle la théorie de l'allocation des ressources, qui montre qu'on a une quantité de ressources données, et donc soit on les met dans la survie, soit on les met dans la reproduction. Et le fruit de la passion s'est avéré un truc absolument extraordinaire pour étudier ça. Donc, voilà. Donc.
Vous aviez donc déjà étudié la théorie de l'évolution de Darwin ? A été comme une révélation pour vous.
En fait, j'ai eu mes résultats expérimentaux et après, pour comprendre, j'ai découvert la théorie de l'évolution grâce à un excellent professeur, Pierre-Henri Gouillon, qui a formé plein de gens à la théorie de l'évolution en France et qui a fait que finalement, mes résultats avaient un sens. Et ça rentrait dans cette théorie, et ça a été un coup de cœur intellectuel, la théorie de l'évolution.
Pourquoi ? En quoi ?
Eh ben, d'abord, ça permettait de rejoindre la biologie et les maths, ce qui est absolument extraordinaire, et ça donnait un sens à comprendre, en fait, toute cette biodiversité, tout ce qu'on voit dans la nature et aussi l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est biologique, ça donnait un sens, quoi, tout ça.
Est-ce que on s'adresse à des néophytes, on s'adresse aussi à des jeunes qui nous écoutent, Evelyne Ayer. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la théorie de l'évolution de Darwin ?
En quelques mots, la théorie de l'évolution de Darwin, c'est, on va dire, la nouvelle théorie revisitée, c'est, vous avez des mécanismes d'évolution qui vont créer de la diversité, qui sont assez simples. Vous avez le hasard qui amène des mutations, des changements, et ces changements, au fil du temps, vont pouvoir, par exemple, être sélectionnés parce qu'ils donnent un avantage. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle et qui vont vous permettre de vous adapter de plus en plus à un environnement, à un endroit, etc. Et donc, il y a une formalisation derrière qui est très intéressante et ça permet de mélanger à la fois du hasard, parce que les nouveautés qui apparaissent sont dues au hasard, et en même temps, cette idée de sélection et d'adaptation. Et donc, c'est, voilà, ça donne un cadre théorique à finalement tout ce qu'on voit sur la planète.
Oui, et tout ce que vous continuez de chercher, tout ce que vous continuez de trouver aujourd'hui dans le cadre de vos propres recherches et de votre propre travail. Elle ne vous a jamais quitté depuis cette révélation, cette théorie de l'évolution.
C'est ça, parce qu'en fait, dans ma discipline, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est sa diversité, c'est son évolution. Et donc, ça rentre tout à fait dans tout, voilà, dans cette théorie qui explique plein de trucs, quoi.
Vous dites, Evelyne Ayer, que c'est l'homme qui vous intéresse. Il n'empêche que vous n'êtes pas arrivé à l'homme tout de suite, puisque vous étiez d'abord sur le fruit de la passion, et puis que vous êtes parti faire des études sur l'évolution des plantes. Vous êtes lancé sur une thèse de doctorat à l'Université de Lyon 2 sur le trèfle souterrain, avant de passer, de bifurquer vers les populations humaines. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce trèfle souterrain, maintenant?
Ah ben, le trèfle souterrain, l'idée, c'était de voir si, quand un trèfle souterrain avait évolué, je dirais une population avait évolué dans un environnement très changeant, eh bien, il était mieux à même de s'adapter à des changements d'environnement.
Ça, c'est génial, parce que vous allez retrouver ça chez les hommes, après.
Ah ben oui, quelque part.
Comment expliquer que le trèfle souterrain est l'homme et ses points communs?
C'est vraiment le hasard. Et j'avais jamais réfléchi, effectivement, qu'ils avaient ces points communs.
Donc, vous savez pas pourquoi? C'est un hasard.
Ouais, c'est
un hasard. C'est une coïncidence.
Ouais, c'est une coïncidence.
De la nature. Comme quoi, vous voyez, vous en découvrez toujours. Bon, racontez-nous ensuite le voyage au Canada que vous avez fait. Vous êtes parti dans un centre de recherche au Canada. Là, vous êtes déjà sur la population humaine. Non, mais déjà, peut-être, comment êtes-vous passé des plantes aux populations humaines?
Oh, tout simplement parce que j'ai postulé à un concours que je n'ai pas eu. Et je suis partie, du coup, vers les populations humaines parce que j'ai réussi un autre concours autour des populations humaines. Et c'était la même idée. Je voulais vérifier au départ dans les populations humaines si on retrouvait ce fait que, par exemple, les gens qui vivent plus longtemps ont moins d'enfants, des relations comme ça qui sont prédites par la théorie de l'évolution, et aussi parce qu'il y avait une question qui me passionnait. Parce que c'était des villages du Haut-Jura, donc à côté de là où j'avais passé mon enfance, et où c'était des populations humaines où il y avait une forte prévalence, c'est-à-dire une forte fréquence d'une maladie. Et l'idée, c'était de comprendre pourquoi il y avait cette forte fréquence de maladies dans ces vallées du Haut-Jura. Coup de chance, à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'ADN et tout ça. Hein. Donc, on travaillait avec des généalogies, avec des fichiers d'état civil, des mariages, des naissances et des décès, et avec des historiens qui avaient reconstitué comme ça toute l'histoire de la population. Mais pour étudier ces données, en fait, je suis allée au Canada, parce que les Canadiens étaient très en avance, notamment à Montréal, sur l'étude de ce type de données. Et donc, je suis partie au Canada étudier ma population du Jura.
Étudier la population du Jura, mais il y avait aussi la prévalence d'une maladie au Québec. Elle ne se retrouvait pas là-bas, cette maladie?
Celle-là, non. C'est plus tard, quand j'ai travaillé après au Québec, que finalement j'ai travaillé sur des maladies qui se retrouvaient au Québec.
Et là, ça a été une deuxième révélation?
Deuxième révélation. Alors, autant dans le Jura, ce qu'il y avait de génial, c'est que donc, pour expliquer qu'il y avait cette maladie dans cette vallée, la théorie de l'évolution nous dit que en général, dans un petit groupe, par hasard, vous avez des mutations qui apparaissent et qui vont rester. C'est ce qu'on appelle de la dérive. C'est le terme, c'est le terme consacré. Et donc, l'idée, c'était de voir si cette population-là était fermée, petite, dans le Haut-Jura. Pof ! J'analyse les données démographiques. Pas du tout. Il y a plein de mariages de gens qui viennent de l'extérieur, donc ça ne tenait pas la route. Et donc, pour arriver à expliquer cette forte fréquence de maladies, il a fallu que je rajoute des données culturelles. À savoir que les gens dans la vallée qui avaient des terres se reproduisaient mieux dans la vallée. C'est-à-dire que leur gène, leur patrimoine génétique, restait plus dans la vallée que les patrimoines génétiques des immigrants qui restaient une ou deux générations, mais qui repartaient après. Et donc, un avantage dans ce cas-là qui était culturel, le fait d'être propriétaire terrien dans la vallée, donnait un avantage finalement à ces gens-là d'un point de vue génétique et contrebalançait la maladie. Donc, on est dans un système où c'est du social. Dans ce cas-là, j'ai des terres, je transmets mes terres, mes enfants vont rester, je peux avoir plus d'enfants. Contrebalance un problème génétique d'une maladie héréditaire qui crée des problèmes de santé. Et là, ça a été pour moi extraordinaire parce que je me suis dit, waouh, l'humain, en fait, c'est encore plus marrant que les plantes.
L'humain, c'est plus marrant que les plantes et la culture joue un rôle considérable, y compris sur le plan biologique, ce qui va conduire toutes vos recherches par la suite. Mais à ce moment-là, Evelyne Ayer, vous faites encore, il me semble en tout cas, ce qu'on appelait de la génétique des populations humaines. Donc, on n'était pas encore dans la génétique anthropologique ou dans l'anthropologie génétique, on n'est pas complètement dedans, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. La génétique sert d'outil. C'est pas de la génétique en premier, expliquez-nous.
En fait, oui, à ce moment-là, je faisais de la génétique des populations, c'est-à-dire je regardais comment la fréquence des gènes évolue dans les populations. Et je me rendais bien compte qu'il y avait effectivement des mécanismes culturels à rajouter, mais voilà, j'intégrais pas encore complètement ça. Et je me suis rendu compte après, au fil du temps, que en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas les gènes et comment ils évoluaient dans les populations, c'était l'homme, l'anthropologie, et que je pouvais utiliser la génétique comme outil pour répondre à des questions anthropologiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu moins après travaillé sur les maladies héréditaires qui m'intéressaient moins. C'était plus, waouh, avec la génétique, on peut révéler des choses de l'homme. Donc, on peut faire de l'anthropologie à partir de données génétiques.
D'autant que la génétique est venue confirmer la théorie de l'évolution, non ?
Ah ben oui, la génétique, elle a permis, je veux dire, des choses là, par exemple, que j'avais vues avec mes généalogies, yatata, et ben après, on est arrivé avec des vraies données d'ADN, de pouvoir vraiment analyser directement le génome des individus, et donc de pouvoir comprendre comment, je dirais, on faisait société ou comment on fait société. C'est-à-dire, à partir de l'ADN, vous pouvez comprendre comment on fait société.
On est dans les années 90-2000, donc au début de votre carrière professionnelle, Evelyne Heyer, ce qui correspond peu ou prou à l'essor fulgurant de cette discipline qu'est la génétique, puisque la découverte de la structure de l'ADN, c'est 1953. Le séquençage complet du génome, c'est au tout début des années 2000.
Oui, et encore, c'est le premier séquençage qui n'était pas très bien, et il y en a un nouveau qui est sorti il y a seulement un an ou deux, quoi. Donc, on est vraiment en plein dans un changement d'échelle en termes de ce qu'on peut faire avec de l'ADN. Et c'est à partir de ce moment-là où on arrive à avoir finalement de l'ADN pour les individus que l'ADN commence à être une machine à remonter le temps, parce que en parallèle de ces découvertes de l'ADN, il y a eu aussi un énorme développement théorique dans ce qu'on appelle la théorie de la coalescence, qui est une théorie mathématique pour analyser les données génétiques. Donc il y a eu un concours des deux.
Jusqu'à quand peut-on se fier à l'ADN ? Peut-être déjà, avant même de poser cette question, faut-il revenir à ce qu'est l'ADN pour bien comprendre en quoi il constitue une machine à remonter le temps. Comment le définit aujourd'hui l'ADN ?
Alors l'ADN, chez les humains, c'est une molécule qui est faite de 3 milliards de lettres, avec un alphabet où il n'y a que 4 lettres, A, C, T, G. Alors 3 milliards, c'est énorme, et j'ai un ami, il a calculé, ça correspond grosso modo à une encyclopédie de 600 à 700 000 pages.
Oui, quand même.
Pas mal. OK. Et donc cet ADN, toute cette série de lettres, on peut lire la succession de lettres, et dans cet ADN, il y a des endroits qui font quelque chose, qui vont se traduire en protéines, c'est ce qu'on appelle les gènes. Donc ça, c'est une partie, et c'est ça qui fait qu'on a un humain et pas une banane, hein. OK. Donc jusque-là, ça va.
Ou un trèfle sous terre.
Donc ça, c'est la partie vraiment les gènes. À côté de ça, il y a un bout d'ADN qui sert à contrôler ces gènes, c'est-à-dire faire que ces gènes marchent ou ne marchent pas à certains moments. Et puis, il y a toute une partie de l'ADN où le rôle est un peu plus flou. On l'appelait même avant ADN poubelle, qui servirait à rien. Mais en fait, on se rend compte qu'il sert peut-être un peu à quelque chose. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, la partie vraiment gènes qui codent ou la partie qui sert à faire fonctionner ces gènes, c'est seulement 5% de l'ADN. 95% de l'ADN, ça change rien, quoi.
Et est-ce que quand vous étudiez l'ADN, vous l'étudiez sur des êtres vivants ou est-ce qu'on peut l'étudier sur des êtres morts ? Parce que je pose cette question en revenant à celle que je posais tout à l'heure, jusqu'à quand peut-on se fier à l'ADN ? Parce qu'il me semble qu'en décembre 2022, on a découvert un ADN de 2 millions d'années au nord du Groenland.
Oui. Mais alors moi déjà, j'ai travaillé essentiellement...
Est-ce qu'il est encore fiable cet ADN-là ?
Oui, alors il est tout petit, il est tout abîmé. Donc on peut pas en faire grand-chose, sauf voir quelle espèce existe à quel moment. L'ADN ancien, c'est-à-dire l'ADN qu'on peut extraire de restes fossiles, etc., pour la lignée humaine, en général, on est autour de 50 000 ans.
Ah oui, donc 2 millions, c'est effectivement très exceptionnel.
Oui, c'est très exceptionnel. C'est pour ça que cette étude est remarquable. Mais néanmoins, moi, j'ai beaucoup travaillé surtout avec de l'ADN vivant. Et l'ADN vivant, déjà, dans votre ADN, en fait, il y a plein d'informations. Dans l'ADN, il y a votre parenté avec une vache, quoi. Et en même temps, je peux, avec votre ADN, en le comparant à quelqu'un d'autre, voir si vous êtes cousin, par exemple.
Il y a une grande popularité de toute façon hein, de l'ADN, des tests génétiques, des tests d'hérédité. On le voit depuis plusieurs années maintenant pour chercher ses origines. Au départ, ça posait quelques questions éthiques et politiques, mais au départ, Evelyne Heyer, cette recherche des origines est le fait d'anciens esclaves qui voulaient savoir d'où ils venaient, c'est ça ?
Oui. Alors, ça a été surtout démocratisé, les tests d'origine génétique, effectivement, par les populations descendantes des esclaves en Amérique du Nord, qui voulaient savoir d'où ils venaient. Et effectivement, il n'y a pas de traces au-delà du moment où ils sont arrivés sur le continent d'Amérique et qui ont vraiment voulu lancer cette quête des origines. Et après, bien sûr, ça s'est démocratisé pour beaucoup de gens qui souhaitent connaître leurs origines. Bon, il y a du pour et du contre.
C'est-à-dire ?
Alors, le pour ou le contre ?
Les deux. Les deux.
Le pour, effectivement, je pense que c'est plutôt sympa pour des gens qui ont des interrogations, qui ont envie de savoir d'où viennent, grosso modo, sur la planète leurs ancêtres, d'utiliser ces tests pour essayer de retrouver ça. Maintenant, le contre, déjà, c'est qu'il y a des incertitudes autour des résultats de ces tests et que, surtout, c'est par rapport à votre ADN, parce que finalement, vous le laissez dans une banque de données. En général, ce sont des compagnies américaines, hein, c'est interdit en France. Et après, votre ADN, il peut être utilisé à d'autres fins. Ça a été, par exemple, utilisé pour retracer des grands criminels, des serial killers aux États-Unis. Là, en général, on est plutôt content. Mais ça pourrait être utilisé pour d'autres choses. Et ça, ça vous échapperait. Par exemple, on peut imaginer, mais c'est de la science-fiction, mais pas loin. Vous savez qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, il y a l'interdiction de l'avortement dans différents États. On pourrait très bien imaginer utiliser les traces d'ADN que laissent des gens à différents endroits pour retrouver qui est allé se faire avorter dans une clinique à tout côté. Et ça, vous perdez la main, quoi. Une fois que vous avez mis votre ADN dans ces banques de données. En Europe, on est protégé quand même. On est plus protégé, effectivement. D'abord parce qu'il y a un passé, hein, ne serait-ce que de retracer l'origine géographique des individus et en fonction de leur origine, de faire des fichiers. Quand ça s'est fait en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça s'est très mal terminé. Donc on a quand même une histoire autour de ça. Donc je pense que ce sont des outils qui sont intéressants, mais je pense que ce serait bien de se doter de systèmes éthiques et de protection qui permettent leur usage en évitant les mésusages.
Bon, ça c'est donc à côté des découvertes de la génétique qui sont des découvertes des chercheurs. Vous, en tant que chercheuse, vous êtes donc passée de ce qu'on appelait la génétique des populations à l'anthropogénétique. Est-ce qu'on pourrait dire que la génétique des populations c'est la même chose ou c'est l'ancêtre de l'anthropogénétique ?
Bah, pour moi, la génétique des populations c'est un outil, une méthode. Alors que l'anthropologie génétique c'est plus une discipline.
C'est une discipline.
Parce qu'on se pose des questions sur l'homme. On utilise comme outil la génétique des populations. Donc, pour moi, c'est en ce sens-là que c'est différent par rapport aux questions que je me pose et comment j'aborde, ma discipline scientifique.
Et justement, toujours pour bien vous situer, par rapport à la paléogénétique, la paléoanthropologie, qui est très importante, puisque d'ailleurs, c'est elle qui a permis de découvrir ce fameux ADN de 2 millions d'années au Groenland dont nous parlions tout à l'heure. Et c'était aussi le prix Nobel de médecine qui a été remis au spécialiste de génétique évolutionniste Svante Paabo en 2022. Donc on voit bien que la génétique est en plein essor, mais qu'il y a quand même différentes disciplines. Alors où vous situez-vous, vous, par rapport à celle-ci ?
Alors pareil, moi, la paléogénétique, c'est un outil. Tout simplement, c'est le fait que au lieu de travailler juste avec de l'ADN contemporain, je vais pouvoir travailler avec de l'ADN ancien, c'est-à-dire l'ADN qu'on va retrouver dans des fossiles, dans des populations ou des espèces qui ont maintenant disparu. Mais après, je vais utiliser les mêmes outils. C'est juste au moment où j'ai ma donnée de base qui est l'ADN, soit je fais de l'ADN moderne, soit je fais de l'ADN ancien. Si je fais de l'ADN ancien, j'appelle ça de la paléogénétique, la paléogénomique. Si je fais de l'ADN moderne, j'appelle ça de la génétique. Voilà, c'est. Mais après, les outils vont être les mêmes.
Vous faites de l'ADN moderne.
J'utilise aussi des données d'ADN ancien.
Vous faites tout.
Non,
en plus, vous mêlez les sciences de la vie, les sciences humaines et sociales, l'ethnologie, l'anthropologie, la linguistique, la primatologie, la démographie historique, évidemment la génétique. Donc, c'est une discipline au carrefour de beaucoup d'autres, au fond.
Elle peut être au carrefour de beaucoup d'autres, oui, effectivement. Quand on a la chance d'avoir des collègues avec lesquels on peut interagir et développer finalement un peu tous ces champs, effectivement, elle peut s'étendre, on va dire, à plein de disciplines autour. C'est ce que j'aime d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de travailler sur les humains plutôt que sur les plantes. C'est parce que en fait, il y a tout ça autour, quoi, qu'il y a moins chez les plantes.
Alors, on vous a laissé, Evelyne Ayer, au Canada, en plus exactement au Québec, où vous avez donc étudié la prévalence d'une maladie. Vous avez vécu pendant 4 ans entre le Canada et Trinidad aux Antilles, puisque je crois que c'est là que travaillait votre mari. Vous avez soutenu votre thèse en 1991. Vous avez enseigné à l'Université du Québec à Chicoutimi pendant 3 ans. Et puis, vous êtes rentrée en France.
C'est ça.
Direction le CNRS.
Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, je suis retournée...
En raccourci, hein, bien
ouais,
sûr.
Non, mais c'est ça. Je suis retournée... J'ai eu un poste à l'Université du Québec à Chicoutimi et c'était vraiment passionnant. C'était là la question d'une population de l'Est du Québec où il y a une forte prévalence de maladies héréditaires. Et là encore, d'essayer de comprendre toujours avec comme outil les généalogies. Hein. Et encore une fois, je suis tombée sur un phénomène culturel important. C'est-à-dire, au Québec, il y a eu des grandes familles et il y avait des familles où tous les enfants restaient se marier sur place, dont les enfants aussi restaient se marier sur place. Donc il y avait des nombres de descendants beaucoup plus élevés. Il y a des familles où il y avait facile une centaine de petits enfants mariés, quoi. Et d'autres familles où ils avaient autant d'enfants mais les enfants partaient, etc. Et donc ceux qui étaient dans ces familles qui se reproduisaient beaucoup pour des raisons, mais alors purement culturelles, hein, il y a rien de biologique là-dedans. Ben ils ont mieux transmis leurs gènes. Malheureusement, dans les gènes qu'ils ont transmis, il y en a certains qui, maintenant, causent des maladies. On porte tous des maladies génétiques, mais qui ne s'expriment pas, parce que pour qu'elles s'expriment, il faut l'avoir reçue à la fois par le père et par la mère. On dit que c'est des maladies récessives, mais quand elles deviennent fréquentes dans une population, vous avez une malchance de le recevoir à la fois par votre père et par votre mère. Donc, c'est un truc culturel, le fait qu'il y ait des familles qui font beaucoup d'enfants, dont les enfants font beaucoup d'enfants, qui a entraîné cette forte fréquence de maladies héréditaires. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé à Chicoutimi. Et donc, à bout d'un moment, j'ai eu envie de rentrer en Europe et j'ai postulé à différentes choses. Et parmi là où j'ai postulé, il y avait le CNRS en France et j'ai réussi le CNRS.
Donc, au CNRS, mais vous voilà en France et tout de suite, à peine en France, presque. Vous voilà reparti sur le terrain pour faire votre travail, vos études et vos recherches d'anthropogénéticienne, avec en tête donc cette découverte, cette révélation pour vous que la culture influe sur notre évolution génétique, que l'humain ne transmet pas seulement ses gènes, mais aussi sa culture. Et c'est ce que nous verrons demain. À demain, Evelyne Ayer.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral. Prise de son, Florent Layani. Réalisation, Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application de Radio France.